Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, on est reparti pour une demi-heure de débrief avec nos experts Frédéric Bianchi, journaliste à BFM Business, Claudia Cohen, journaliste au Figaro, et Didier Sens, journaliste tech. On a parlé, si vous avez raté le début, des câbles sous-marins. On est revenu sur Google qui avait lancé 100 nouvelles langues de la traduction. Et puis, ce côté greenwashing un peu des big tech en ce moment, est-ce qu'il faut être un peu plus sévère avec eux? Et puis là, on va parler d'Amazon. Mais avant de vous passer la parole, mes chers débriefeurs, la parole est à Étienne Braque. Bonsoir.
Bonsoir
Étienne.
Bonsoir Frédéric.
Alors Étienne, Amazon vient d'entrer dans ce club très fermé des capitalisations, alors non pas à plus de 3000 milliards, parce que là il est encore plus fermé, ils sont que 2 ou 3 à y être inscrits, mais dans celui des capitalisations de plus de 2000 milliards.
Et la course à l'intelligence artificielle qui continue de faire bondir Wall Street avec en effet désormais Amazon qui rejoint le club très fermé des 2000 milliards. Là vous avez les 5 valeurs qui sont au-dessus des 2000 milliards, dont 3 qui sont au-delà des 3000 milliards. Leur particularité, c'est qu'ils sont présents dans l'intelligence artificielle, Microsoft avec Azure, Apple, on l'a vu ces derniers jours, a connu un record historique grâce notamment aux annonces et l'arrivée de ChatGPT dans ses iPhones, Nvidia bien sûr, qui a connu le parcours le plus spectaculaire à Wall Street, quand Alphabet, la maison mère de Google, également avance ses pions dans l'intelligence artificielle. Alors c'est vrai qu'Amazon, on en parle beaucoup par rapport à leur place de marché, mais moins par rapport aux activités cloud, Amazon Web Services, qui est eh bien, un petit peu la vache à lait du groupe, dans le sens où c'est une marge opérationnelle de plus de 36% au premier trimestre pour cette activité cloud contre 24% l'année dernière. Une dynamique qui devrait se poursuivre selon le consensus. L'IA a besoin de beaucoup de stockage. Ça tombe bien. Amazon sait le faire puisque c'est tout simplement le leader mondial dans les activités de cloud avec une part de marché de plus de 30% devant Microsoft qui certes avance ses pions avec Azure, mais vous avez quand même un écart important entre ces deux acteurs. Et puis ensuite en troisième position, loin derrière, vous avez Google qui a un petit peu plus de 11% de part de marché au quatrième trimestre, c'est en tout cas les derniers chiffres recensés. Et puis cerise sur le gâteau, l'activité e-commerce qui a été pendant des années en perte, et bien au premier trimestre elle a gagné de l'argent, et ça, ça devrait se poursuivre grâce notamment à des gros gains de productivité, des économies. Donc tout ça devrait et bien permettre également au groupe de continuer d'avancer dans son activité de e-commerce, d'autant plus que les informations de The Information affirment que Amazon devrait lancer dans les prochains mois un site un peu plus low cost afin de concurrencer Alibaba et puis surtout Temu.
Merci Étienne Braque pour ces précisions. Donc autour d'Amazon, alors évidemment Amazon, on est dans l'immense, à la fois la plateforme de e-commerce et puis toute notamment cette immense partie AWS, Amazon Web Services, qui concerne le cloud. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir là, de ces 2000 milliards? Je démarre avec toi Claudia.
Que Jeff Bezos est un très bon vendeur aussi. Là il était à Washington, il a fait une petite tournée à Washington pour essayer de convaincre à la fois les services publics, aussi quelques organisations non gouvernementales de se mettre à l'IA générative. Il essaye évidemment face à Google, face à Microsoft.
Ils investissent dans Anthropique beaucoup.
De se positionner sur ces marchés. Et après aussi un mot peut-être qui n'a pas été dit, plus globalement Amazon sur la stratégie publicitaire, ce qui marche du feu de Dieu en ce moment, c'est ce qu'on va appeler le retail media, c'est les investissements sur les espaces e-commerce en gros. Et en fait Amazon est absolument leader là-dessus après Walmart, et de plus en plus les investissements dont certains qui étaient sur les réseaux se déplacent vers ce type de publicité. Amazon capte énormément d'argent là-dessus. Avant, on se rappelle, il y a à peine 5 ans, les revenus publicitaires d'Amazon c'était dans les lignes autres, c'est-à-dire qu'on les comptait même pas. Maintenant ça existe, c'est présent et ça ne fait que
et
grimper.
Les bénéfices venaient d'ailleurs beaucoup de la division AWS, c'était ça qui a entraîné.
Donc là sur différents corps de leur business, ils sont extrêmement bien positionnés, et aussi je pense que le rôle quand même du fondateur reste très important aussi.
Oui, même s'il a passé la main à Andy Jassy depuis quelques années, mais il est toujours quand même bien présent. Fabien, oui. qui lui suit Amazon depuis
Jeff Bezos. J'ai connu Amazon avant lui. Amazon, il y a encore un an ou deux on se disait où est-ce qu'ils en sont finalement dans tout ça. Il y avait OpenAI qui arrivait, eux ils avaient un peu de retard. Le e-commerce, n'était pas florissant. Ils avaient supprimé un certain nombre de postes parce qu'ils avaient eu des difficultés dans l'après-Covid. Puis là, on s'aperçoit que finalement, depuis un an, puis, Andy Jassy...
Je t'interromps, AWS, grosse compétition quand même. Il y a Azure et Microsoft.
Il y a encore GCP, deux ans, Google je crois qu'Azure était même passé sur certains trimestres devant AWS. Hein, donc Microsoft avait dépassé Amazon sur le cloud, alors qu'Amazon était leader avant. Mais finalement, on s'aperçoit que petit à petit, les briques posées par Andy Jassy commencent un peu à faire un peu système. On parlait de l'IA, mais Amazon a investi quand même 4 milliards d'euros dans une des startups les plus prometteuses du secteur, hein, Anthropic. Ils développent leur propre langage, leur propre outil d'IA générative qui s'appelle Q en interne. Il y a la publicité dont parlait Claudia, je crois que sur Amazon Prime Video. Alors ça nous embête de voir ces pubs, hein. Moi ça me hérisse, mais en attendant ça fonctionne semble-t-il assez bien, parce que je crois qu'il y a des projections de banques assez sérieuses qui disent que Amazon devrait générer 5 milliards de dollars de revenus avec ses pubs, juste ses rôles au début de la vidéo. Amazon Web Services, donc en croissance de 17% au-delà des prévisions du marché. Le cloud, qui est quand même un peu à la manière d'NVIDIA, une des briques fondamentales de l'IA générative.
Ils ont leurs composants aussi, ils sont comme les autres.
Ils ont aussi leurs composants. Ils commencent à gagner de l'argent dans le e-commerce après en avoir perdu pendant quasiment 30 ans. Donc tout ça fait que qu'Amazon finalement atteigne 2000 milliards de capitalisation boursière. J'ai même envie de vous dire que c'est pas assez. Je pense qu'il pourrait être encore plus. Alors ils ont progressé quand même de 50% en un an, mais je pense que voilà, le rallye n'est pas terminé pour Amazon, parce qu'ils sont pas finalement plus mal placés qu'Apple. Alors peut-être un peu moins bien que Microsoft, encore que ça se discute, dans les révolutions tech qui arrivent et qui vont transformer le marché des 10 prochaines années.
Les révolutions tech, alors si vous nous regardez en télévision, vous voyez ces impressionnants entrepôts, parce qu'évidemment c'est les plateformes du commerce, mais ça dit derrière quoi? C'est de la logistique, et puis derrière toute l'innovation qu'on met dedans, notamment de la robotique. Hein. François Sorel et Léa Benaim étaient allés il y a quelques mois chez Amazon aux États-Unis pour voir la mise en place de tous ces robots, c'est assez impressionnant.
C'est impressionnant.
Didier.
Alors moi je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Simplement, enfin, on attendait Amazon dans ce club parce que les autres y sont.
Là, on était un peu surpris de. Moi, quand j'ai vu la première, je me suis dit, ah bon, mais ils ne seront pas. Ah oui,
voilà,
ils sont
absolument. On est plus surpris d'apprendre qu'ils y sont que. Voilà. Mais comme on discutait avec Claudia tout à l'heure, c'était l'histoire de. En fait, c'est intéressant parce que Meta a disparu de ce groupe.
Oui.
Et Nvidia y est arrivé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute la donne a changé avec cette histoire d'intelligence artificielle. Et si Amazon fait d'aussi bons résultats, c'est en grande partie à cause de ça. Même si ces services AWS, tous ces services cloud, ont connu un boost avec l'histoire du streaming, hein, avec Netflix et compagnie. Enfin, il fallait quand même avoir des gros serveurs pour stocker tout ça. On peut dire que là, Jeff Bezos peut remercier les besoins phénoménaux en serveurs de l'intelligence artificielle.
C'est intéressant ce que dit Didier sur par rapport à Meta. Notamment.
C'est toujours intéressant ce
Meta,
que dit
toujours intéressant, mais alors là encore plus que d'habitude. Non, Meta, combien ils ont dépensé dans le métaverse, dans la réalité virtuelle depuis deux ans? Ils auraient mis un dixième, alors c'est évidemment un dollar dans le métaverse, c'est pas équivalent d'un dollar, voilà. Ils n'avaient peut-être pas les compétences en interne, ils n'avaient peut-être pas les expertises, mais ils auraient racheté des startups, ils auraient investi dans des Anthropic ou dans des boîtes comme ça, plutôt que de dépenser, je crois que c'était 10 milliards par trimestre à un moment où ils dépensaient dans leur métaverse, dans leur casque qui se sont jamais vraiment vendus. Enfin, ça reste des produits de niche, tout ça. Moi, je pense que là, Mark Zuckerberg a raté le coche et a démontré qu'il n'était peut-être pas aussi un aussi brillant patron que ceux de Microsoft et d'Amazon.
Moi, je n'entarrais pas si vite. Il ne faut pas oublier non plus ce que jugent en général quand même les investisseurs, c'est les résultats aussi quand même à très court terme. Et tu le disais, il y a eu des dépenses stratosphériques de Meta qui a toujours dit qu'ils espéraient voir des résultats à ces dépenses dans X années, sauf qu'en bourse, on n'a pas le temps. Donc, on voit Meta qui ne produit pas immédiatement des résultats, alors que ses concurrents, c'est le cas. Mm-hmm. Mais moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri de voir dans 2, dans 3, voire dans 4 ans des choses absolument extraordinaires se développer chez Meta, et pour le coup des choses sur lesquelles ils ont investi, on se moquait d'eux à l'époque, et sur lesquelles le reste n'a pas investi, puisque ça ne les empêche pas non plus à Meta d'être quand même présent aussi sur l'aspect IA.
Ils sont toujours là, quoi. C'est
ils
vrai,
sont
à
là,
un moment,
oui.
Ils ont raté le virage du mobile, ah ben non, finalement ils sont repartis.
Ouais.
Ils ont... Alors le Metaverse, bon, il a su rebondir, et puis le Metaverse n'est pas fini, donc on verra un peu cette compétition avec Meta.
Ils ont eu moins de nez. On rappelle qu'AWS, c'est vrai que ça peut surprendre. Pourquoi Amazon, qui vend des livres, des robots ménagers, pourquoi ils sont leaders du cloud? C'est vrai que ça peut être surprenant. Et parce que, alors, c'est un coup de chance, en fait, de Jeff Bezos. Hein. À l'origine, ils avaient investi dans des serveurs, justement, pour faire tourner leur site e-commerce. Et ils sont aperçus l'été que les gens achetaient moins de produits par rapport à Noël ou par rapport à des saisons plus florissantes. Et Jeff Bezos s'est dit, ces serveurs, qu'est-ce qu'on en fait? On va les louer à des entreprises pour qu'ils puissent se stocker leurs données là-dessus. Et c'est comme ça qu'est né AWS sur un peu de hasard.
Pour la petite histoire, j'avais interviewé le patron de l'innovation qui était venu présenter ça à Jeff Bezos en disant on devrait louer nos serveurs. Jeff Bezos dit commencer à les louer.
Pourquoi faire?
Et puis voilà, il avait expliqué tout ça. Mais en plus, là où ils sont, où ils ont eu en plus cette intelligence, et on va parler de VHCloud dans un instant, qui essaie de monter aussi, c'est qu'ils ne sont pas restés juste sur la partie infrastructure. Ils sont montés dans les couches et pour proposer tout un tas de services. Alors, au niveau des développeurs, au niveau des entreprises, ils proposent, quand vous discutez avec des DSI, ils vous parlent de tous les services qui sont en place pour. On peut tout faire, quoi. Et puis on déclenche ça, hop, alors il faut quand même c'est payé. On paye, une fois que c'est payé, on enclenche comme sur notre smartphone, là, on met le petit truc sur vert et tout. On a accès à tout un tas de services. Quand on n'en a plus besoin, on désenclenche. Et là, c'est vrai qu'ils sont assez puissants. Un mot, je voulais rester sur Amazon, qui s'attaque à Temu et à Shein, là, donc ces plateformes chinoises, et qui veut aussi se lancer dans le low cost, c'est ça? Alors qui est
oui, ils veulent lancer une vitrine cheap, on va dire, sur leur site, avec des produits qui seraient tous dans la déco, dans la mode, des trucs pour la maison, qui seraient tous à moins de $20 sur des prix très très bas. Et en fait, ce qu'ils proposent pour attirer les fabricants chinois qui produisent ces produits, c'est en fait qu'ils puissent les livrer directement eux, c'est-à-dire que ces produits n'aient pas à passer par les entrepôts d'Amazon, et donc en vous faites une vente directe, ce qui fait gagner du temps. Ils promettent 9 jours grand maximum de délai, et ensuite Amazon aussi, pour garantir des prix extrêmement bas, réduit drastiquement sa commission. Je crois qu'il passerait de 17%
à 5%. Mais du coup, ils s'en fichent de toute la polémique là, qu'on a autour de ces sites.
C'est ça que j'allais dire, il y a quand même vraiment un enjeu de réputation. Moi, j'ai beaucoup écrit sur Temu, sur Shein, etc. Et c'est vrai que même si Amazon à la base avait quand même aussi un business model qui était très critiqué, parce qu'on parle
combien d'entre nous on s'est tous fait avoir, acheter des produits sur Amazon c'était moins cher, le jour où ils arrivent, ah oui tiens,
ouais. Ils sont pas géniaux, le coût pour l'environnement est quand même énorme. À la base, c'est le business model d'Amazon qui était critiquable écologiquement parlant, mais quand vous voyez des acteurs comme Temu et Shein arriver, à mon sens Amazon retrouvait certaines lettres de noblesse, parce que la compétition est devenue pire en fait, et là d'aller s'insérer dans ce truc, parce qu'il faut dire déjà, au-delà d'être critiquable, il y a aussi des gouvernements, notamment le gouvernement français qui se révolte par rapport à ces types de business model. Il y a un vote en France pour une taxe sur ces sites en fait qui vendent des produits d'extrêmement mauvaise qualité et à très bas coût. Je pense qu'il y aura peut-être ces mêmes types de réflexions dans d'autres pays que la France, donc c'est un pari. Je ne sais pas si c'est un pari risqué, parce que je ne pense pas que ça coûte extrêmement cher pour Amazon, et en fait si j'étais au niveau business, je me dis pourquoi pas,
l'équation carbone avec des produits achetés peu cher, très peu portés finalement, parce qu'une fois qu'on les lave trois fois ça, et qui se retrouvent dans les déchets, et là on repart dans une autre chaîne déchets textiles. Fred,
moi je sais pas si Amazon fait ça pour vraiment générer un nouveau business, ou si c'est aussi pour faire un clin d'œil à la Chine, parce qu'Amazon veut s'implanter en Chine. Ils investissent en Chine aussi. Amazon, c'est pas grand chose en Chine. Amazon aujourd'hui,
il est présent dans
très peu de pays finalement, c'est principalement des pays occidentaux. Alibaba, donc il va vraiment s'imposer.
Le deuxième, c'est
s'imposer en Chine.
Deux grands. Il y a Alibaba et son.
Alibaba,
c'était. Ça vient de revenir.
Ça m'échappe.
Soufflez-le nous.
Et après, la question morale autour de la question environnementale. Moi, je veux bien, mais Temu, Shein, et ça cartonne. Alors, je veux bien qu'il y ait des articles dans la presse qui critiquent leur modèle de développement, leur impact environnemental, mais attends, les gens achètent.
Mais ça commence comme ça, et derrière, il y a le réveil politique, et derrière, la régulation, et derrière, l'interdiction.
Amazon a eu une très mauvaise presse en France, et continue certainement d'en avoir pendant des années. Ça leur a pas empêché de se développer. Alors oui, il y a le cas Wish, par exemple, qui a dû, voilà. Mais Shein, Temu, moi, tous les jours, j'entends dire des horreurs sur ces trucs-là, et certainement à juste titre. Attendant, les gens achètent beaucoup. Et Amazon, l'idée, c'est de disrupter, je crois, un petit peu, parce que le problème de ces sites-là, il faut le dire, c'est que les temps de livraison sont très longs.
C'est 11 jours au minimum, c'est ça, non?
Ouais. Alors, Amazon veut accélérer, en passant par sa chaîne logistique, ils veulent accélérer le processus. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment mettre le paquet là-dessus? Allez. Les marges doivent être très faibles sur ces produits-là quand même à moins de...
Changeons un peu de sujet parce que j'aimerais bien qu'on termine par les chercheurs japonais qui ont greffé une peau organique là, sur un visage de robot. On va y venir dans un instant. Et rien que les images, voilà, comme le disait l'un de mes prédécesseurs ici même, si vous êtes à, bon appétit, si vous êtes à table, qu'on verrait cette vidéo. Juste un mot sur les bons résultats d'OVH Cloud. Je ne sais pas, Didier... Claudia.
Sur OVH Cloud.
Oui, parce que plutôt des 10% de croissance sur le trimestre, des revenus en hausse, hausse du revenu par client, une croissance aux États-Unis qui s'établit, qui est plutôt bonne. Alors, on n'est pas dans la.
Non, on n'est pas sur les hyperscalers. Mais justement, ça fait la différence. On n'est pas sur des hyperscalers, on est sur des propositions de prix qui sont plus accessibles. C'est ce qui market aussi au OVH Cloud. Et il faut aussi rappeler, ce qui market, c'est le côté, on parlait de souveraineté tout à l'heure, là, on peut en parler aussi. De côté, on propose des services aux entreprises et on est capable de garantir que il y aura une sécurité des données et que dans aucun cas il y aura comment on appelle ça l'extraterritorialité des données, des questions quand même qui peuvent inquiéter quelques entreprises. Et il faut saluer quand même le travail d'OVH Cloud qui petit à petit, voilà, l'année dernière il y a eu, je crois que c'était l'année dernière où il y a eu des pertes, là il remonte la pente. Il y a quand même un énorme marché, on disait tout à l'heure avec l'IA, sur lequel on aura besoin de plusieurs acteurs. Il y aura pas que les gros qui pourront prendre des parts de marché. Donc voilà.
Avec acteurs aussi très innovants. Hein. On sait que, alors sous l'impulsion évidemment d'Octave Klaba, son fondateur, mais il y a Michel. Décidément, on a du mal avec les noms ce soir. Michel Paulin, voilà.
Oui, Michel Paulin,
directeur général qui fait pas mal, un très bon boulot aussi derrière tout ça. Ils sont en train de monter en gamme aussi. Hein. Oui. Alors moins vite que parce que les moyens sont pas les mêmes. Il faut convaincre aussi. Ils ont un peu plus de mal à convaincre les clients, hein, qui souvent s'assurent un peu comme à la grande époque. Je prends pas de risque, je vais chez Microsoft. Ben là, c'est vrai, beaucoup d'entreprises, je prends pas de risque, je vais chez Google, Azure ou Amazon. Là, voilà, il y a des choses qui commencent à être faites. Ils ont aussi les normes, les Secnum Cloud. Enfin voilà, ils ont tout ce genre de choses. Fred, oui, c'est quand même à saluer.
Ils mènent leur petit bonhomme de chemin plutôt bien. Alors c'est vrai que l'année dernière a été très mauvaise. Ils ont quand même beaucoup perdu en bourse. Là aujourd'hui, vu les bons résultats, meilleurs qu'attendus. En bourse, la bourse, c'est
plus 15%.
C'est plus 15% aujourd'hui. Donc, c'est très bien. Ils ont... C'est une niche. Hein. On a vu tout à l'heure les graphiques avec 32% pour Amazon, 28%. On n'est pas là avec OVH et on sera sans doute jamais là. Mais ils ont pris leur niche. Alors, sans doute sur le low cost. Hein. Ils sont moins chers que ses grands concurrents. Moi, je pense à Atos quand même quand je vois le succès d'OVH. Et je me dis, OVH a mis le paquet sur le cloud public. Pourquoi Atos n'est pas allé? Pourquoi Atos n'a même pas racheté OVH? Quand le succès d'OVH, c'est aussi un peu l'échec d'Atos qui n'a pas pu, alors qui n'aurait peut-être pas pu le faire à l'époque, hein, à l'époque de Thierry Breton, c'était peut-être pas possible. Mais c'est vrai que dans les années 2010-2012, quand il a fallu prendre ce pli, plutôt que de rester sur le cloud privé qui était un peu la vache à lait d'Atos, eh bien, on voit que, y a des pépites françaises qui sont engouffrées là-dessus, sans même parler des géants comme Amazon, hein, parce qu'il y a, en 2010, Amazon, c'était pas grand-chose le cloud non plus, hein, au moment où Atos aurait pu tourner.
C'est vrai que j'ai regardé leurs chiffres. Au niveau cloud public, ça marche plutôt pas mal. Au niveau cloud privé
aussi,
ils arrivent à augmenter, c'est-à-dire sur un même client. Sur un même client, on arrive à lui vendre un peu plus de services. Et ça, c'est tout à l'honneur justement de l'équipe dirigeante qui est vraiment en train de monter en gamme. Donc nous, on a toujours. Alors, on leur a mis quelques coups sur les doigts quand il le fallait, mais on salue aussi toujours leur réussite. Et puis le fait quand même que ça fait partie de nos acteurs français, européens. En ce moment, qui marche plutôt bien aux États-Unis. Donc saluons en tout cas ce bon trimestre d'OVH Cloud. On espère, voilà, que on repart dans une dynamique très positive. Surtout qu'on voit en France l'histoire des data centers, tout ça est en train d'évoluer. On voit qu'il y a de cherche à se séparer de ces data centers. SFR, donc qui appartient à Altice comme BFM Business, et bien, on est en train d'être racheté par CMACGM. Bon, on était dans cette maison-là. SFR, mais ça c'est un autre sujet. SFR a revendu ses data centers. Donc on voit quand même que le business model est pas forcément évident.
Juste une rectification, j'ai dit 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'était sur le dernier trimestre. C'est-à-dire qu'OVH est en passe de dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires en annuel si on continue, et certainement on va continuer sur les taux de croissance comme ça. Donc c'est une entreprise
plus que les prévisions.
Voilà, une entreprise qui va devenir milliardaire dans la tech, et on n'en a pas tant que ça en France.
Allez, on attaque ce dernier sujet, des chercheurs japonais qui greffent une peau organique sur un visage de robot. Alors là, je vous conseille de regarder, si vous nous écoutez en radio, bien basculer en télévision, parce que...
Ou l'inverse.
Ou l'inverse, si vous avez un peu peur d'avoir mal au cœur, c'est vrai, tu as raison de le préciser, Didier. Alors, qui veut démarrer, Didier,
sur c'est une expérimentation qu'ont fait des chercheurs japonais, et en fait, ce qui les intéresse, c'est pas seulement d'avoir créé ce tissu qui reproduit un peu le tissu humain, là on voit... je ne sais pas si les gens peuvent voir les images, mais en fait, tout le challenge, c'était de faire en sorte que cette peau soit bien maintenue par la surface métallique du robot, de manière à ce qu'elle puisse adopter différentes expressions.
Oui, comme un visage, quoi.
Comme un visage, et donc toute l'idée, c'était de savoir... ils ont utilisé des espèces de micro-collages qui leur permet de simuler les zygomatiques, les machins.
Oui,
les
parce trucs. Qu'aujourd'hui, lorsqu'on c'est déjà arrivé de faire une peau artificielle, mais voilà, c'est tout à fait lisse.
Voilà.
On voit juste, il sourit, il parle, ça bouge un peu, mais voilà.
Voilà, donc là, l'idée, c'était de voir comment ça marchait. Et en plus, il y a un deuxième challenge derrière, c'est que le tissu qu'ils ont utilisé pour créer cette épiderme est un tissu autoréparateur. Donc, ça va leur permettre de tester aussi le fait cette aptitude à s'auto-réparer en cas de problème, si jamais il y a des...
Mais le but, c'est quoi? C'est d'habiller, entre guillemets, d'humaniser un peu ces robots?
Les Japonais, ils sont très... Ouais. Comment dirais-je, obnubilés par l'aspect androïde des robots. Ouais. On le sait, hein, donc tout
ce... Ils ont une population vieillissante, avec donc, moins d'aide pour accompagner
c'est un peu ça,
âgées.
Leur ambition, c'est de créer des robots humanoïdes crédibles, donc qui seraient capables effectivement d'imiter les expressions humaines pour traduire de la sympathie, de l'écoute, et plaire effectivement à une personne, à une population vieillissante, aux personnes âgées surtout. Maintenant, on n'en est pas là. Ouais. Cette démonstration, elle est effectivement un peu...
Elle est expérimentale, voilà.
Elle est expérimentale.
Mais est-ce qu'on pourrait imaginer aussi cette peau organique, elle puisse servir après pour des humains, des...
Oui, je pense que c'est absolument.
Parce qu'il y a les deux axes.
C'est, l'idée, c'est pas de s'arrêter là.
Moi, je la veux pas. Hein.
Ouais, on verra quand tu seras grand brûlé, si t'as pas le choix.
Non, mais c'est vrai qu'on dirait là, alors, pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent plutôt, c'est on dirait une espèce de blobfish, vous savez,
c'est ça. Oui, c'est ça.
Recouvert de malabar avec les yeux de Bob l'éponge. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, on n'est pas encore dans quelque chose de réaliste, mais je crois que c'est surtout un but de recherche scientifique, hein, c'est savoir un petit peu comment évolue la peau, comment se forment les rides, comment la peau se régénère. C'est plus de la recherche que, enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre, hein, j'ai pas encore mis l'article japonais dans Google Trad, plutôt que d'imaginer recouvrir ça vraiment de vrais robots pour avoir des machines hyper réalistes à qui pourront générer de l'empathie. Là, on est quand même très loin d'avoir de l'empathie pour cet objet-là.
En 5 minutes, on a trouvé 3 débouchés quand même, hein. Des robots un peu humanoïdes, une peau qui puisse être travaillée, voilà, pour l'utiliser, et puis une peau qui puisse un jour peut-être remplacer la peau.
Il y a une volonté, quand même. Enfin, Didier disait, il y a une volonté de certaines personnes, notamment de certaines populations en Asie, de rendre vraiment humain l'aspect des robots, et c'est ce vers quoi on tend. Là, on se moque parce que ça paraît, un peu ubuesque l'essai, mais dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être même dans moins, on arrivera à des résultats. Et quand on sera à ces résultats, il faudra quand même se poser des questions aussi sur quel usage après on va faire de cela. Parce que là, on rigole de ça, mais le jour où ça existera vraiment, est-ce que
on se sera posé des questions? On parle beaucoup des parcs de loisirs, souvent, justement, dans les parcs de loisirs, d'avoir ces robots.
C'est Monde Ouest, c'est ça?
C'est Monde Ouest, voilà, pour la plus ancienne. Ouais. Je crois qu'ils ont sorti la version en série, je sais pas. Elle s'appelait comme ça aussi, la version série. Je crois qu'elle avait un autre nom. Et pour les plus anciens, c'était Monde Yul Brynner,
Westworld,
justement.
Non.
Westworld.
Ah oui,
c'est pas la même génération.
Ouais, ouais. Nous, on est la génération, c'est Yul Brynner qui était voilà. Les gens allaient dans des parcs d'attractions, il y avait un environnement western, un environnement château fort, Moyen-Âge, et puis je sais plus quel était l'autre environnement.
Et ils avaient le droit de tuer tout ce qu'ils voulaient parce que c'était des robots.
On se lâchait complètement d'un point de vue sexuel, enfin tout, c'était complètement le délire pour les humains, et un jour les robots se rebellent. Et donc c'est Yul Brynner.
Et tu vois, ce qui est assez fou quand même, c'est que c'est bête à dire, mais c'est vrai, tous les scénarios de science-fiction qu'on nous vend depuis 30, 40 ans, en fait, bah, se réalisent, en tout cas se matérialisent en envie et demain se matérialiseront en, en projets extrêmement concrets. Et c'est assez fou quand même de se dire aussi à quel point le cinéma, à quel point les livres, la culture étaient, enfin l'imaginaire était tellement en avance.
Les ingénieurs et les ingénieurs et les inventeurs ne vivent pas en dehors de la société. Ils regardent aussi ces séries, ils lisent aussi ces bouquins et ça les inspire. Hein,
oui, mais c'est absolument
pour le bien,
de...
pour le meilleur comme pour le pire.
Pour le mal. C'est fou de se dire ça parce qu'on dit souvent oui, c'est les maths, c'est les ingénieurs qui dirigent. Et évidemment, mais quand même à chaque fois, il y a tous ces créatifs, ces mondes du littéraire, etc., qui représentent des sources d'inspiration.
Mais je trouve que pour l'accompagnement, hier on parlait de OpenAI qui a retardé un peu la sortie de son chatbot vocal. Émotionnel, voilà, un chatbot vocal parce que le ChatGPT 4o parle, mais il y a pas, voilà, il y a une voix un peu synthétique, standard. Ils sont en train de travailler sur quelque chose d'un peu plus émotionnel. Et c'est vrai qu'on se retrouve quand même parfois à parler à son, même en clavier, à son PC, à cette intelligence artificielle, tout, à, de façon assez naturelle, à avoir des conversations, enfin, voilà, sur des échanges pro, tiens, corrige-moi ça, tiens, je voudrais rechercher ça, donne-moi. Et parfois on oublie, enfin, on oublie, on dit pas que c'est une machine, mais on s'imagine que c'est une fois qu'il aura un aspect humanoïde, oui, il y aura quelques questions, non,
Frédéric ? Bah oui, oui. Alors moi, déjà, je suis toujours poli avec les chatbots. Je dis toujours merci, bonjour.
Enfin,
j'ai,
voilà, Laurence de Villers,
j'ai déjà une empathie naturelle avec un petit carré. Donc, Laurence, j'imagine quand ça aura...
Mais Laurence de Villers, éminente chercheuse dans la nuit de l'IA que vous pouvez voir en replay, elle nous a dit, c'est mieux de leur demander s'il te plaît, merci. Et c'est vrai que moi, je le fais maintenant et je vois qu'il y a toujours une petite phrase de politesse en plus.
Bah, quand on voit comment on se parle souvent sur les réseaux sociaux entre êtres humains, si on se dit qu'on peut faire un petit effort avec des machines, on en fera peut-être derrière avec des gens à qui on s'adresse sur Twitter ou autre, en disant bonjour, au revoir, merci beaucoup.
Bon, ben, on va suivre cette expérience des Japonais, mais je pense beaucoup, enfin, je reviens pour la première idée de ce que disait Didier, c'est vrai qu'au Japon, en tout cas, des robots aidants, des robots accompagnateurs, avec cet aspect humain, oui, pour accompagner toute la population qui vieillit, avec beaucoup moins de gens pour accompagner dans les services, ben, pourquoi pas, dans les hôpitaux, on commence à voir ça, et c'est vrai que c'est plus agréable d'avoir quelque chose qui a une forme humanoïde ou pas, mais qui a au moins un visage un peu plus expressif. Après, voilà, il faudra s'y habituer aussi. On verra si c'est notre génération ou si c'est celle qui nous suivront. Merci à tous les trois. Merci infiniment d'avoir été aussi dynamique sur tous ces sujets. Frédéric Bianchi, journaliste BFM Business, que l'on retrouve tous les jours. Sur quoi en sujet en ce moment?
Beaucoup de politique et de macroéconomie.
On en reparlera certainement.
C'est moins rigolo que
étonnant.
Étonnant. Didier Sens, journaliste tech. Merci encore à toi, Didier. Et Claudia Cohen, journaliste au Figaro. D'ailleurs, une interview à retrouver. Alors, on n'en a pas parlé ce soir parce qu'on en avait déjà parlé avec Jérôme Colombin. Tu as interviewé
Joshua
Bengo. Voilà.
Oui, sur les risques, les opportunités de l'IA sur le marché du travail.
Voilà, à retrouver, évidemment, dans le Figaro. Merci à tous les trois.